Bonjour tout le monde, c'est moi Joseph et pour notre première cette année scolaire, je suis avec notre ami Martin. Bonjour Martin.
Salut tout le monde et nous sommes avec Joseph Routal. Oui. Bonjour.
Très bien, bonjour à toi aussi. Tu sais de quoi va-t-on parler aujourd'hui au moins ?
Non.
Vraiment, tu as pas un acte à oublier ?
Non, c'est une blague. Nous allons parler d'un sujet, le dopage dans le sport.
On va vous expliquer tout ça après le jingle. Nous allons dans un premier temps parler de la limite et de à partir de quand on peut dire que c'est du dopage. Car il y a excitant et tout ça, Martin.
Oui, complètement d'accord.
Et bah du coup, on va commencer par la Ventoline. C'est quoi à l'origine la Ventoline ?
Alors, désolé de te couper, mais j'ai oublié. Le dopage, c'est fait de tricher dans un sport en utilisant des produits interdits par la loi. Voilà.
Donc, voilà. Du coup, la Ventoline, c'est un de ces produits qui, à l'origine, est un produit qui a des bienfaits pour la médecine, étant donné que c'est pour les personnes asthmatiques qui souffrent de l'asthme. Et c'est en rapport avec les poumons. Et du coup, si on n'a pas d'asthme, utiliser la Ventoline peut certes augmenter nos performances, mais ça a des défauts. Après, ça peut... C'est mauvais pour la santé.
Pas forcément, mais alors on a le droit à la Ventoline.
Si, c'est forcément mauvais pour la santé.
Oui, on a le droit à la Ventoline, mais il faut pas trop en abuser dans certains sports.
On a tout simplement pas le droit quand on n'a aucune prescription médicale. Oui, mais après, voilà, comme tu as parlé tout à l'heure, il y a prescription médicale qui pourrait être arrangée. Ça serait arrangée par un médecin surpayé, on va dire. Mais dans tous les cas, c'est une prescription médicale par un médecin diplômé. Du coup, on peut pas discuter, c'est une prescription médicale. Et du coup, maintenant, on parle de quoi, Martin ?
De dopage.
Oui, d'accord, mais quel sujet dans le dopage ?
Quelle
organisation de folie ! Bon, en attendant que tu te retrouves dans tes fiches, nous allons parler de grands sportifs qui se sont dopés. Quand je dis ça, Martin, à quel grand sportif penses-tu ?
Je pense bien évidemment à l'ancien cycliste Lance Armstrong, cette fois vainqueur du Tour de France, qui s'était dopé avec un produit strictement interdit dans le cyclisme. C'est ça, tout à fait.
Moi, je pense à Justin Gatlin, c'est un coureur de sprint en athlétisme.
Oui, tout à fait.
Alors, je ne sais pas exactement quoi il était dopé, mais je sais qu'il a été dopé. Il a même eu une interdiction de compétition. D'ailleurs, c'est ce qui a fait polémique parce qu'après, il a pu revenir. Et au championnat du monde d'athlétisme à Londres, c'est lui qui a été champion du monde sous les sifflets, bien sûr, des Britanniques qui... Certes, chacun ses points de vue. Il a été banni de l'athlétisme pendant 8 ans, je crois.
Je ne sais plus, il faudrait...
Voilà. Et je pense qu'on a fait le tour sur les sondages.
Sujet suivant. Pour finir, nous attaquons à des petits pourcentages.
Oui, si tu veux, j'en ai pas énormément, mais oui, vas-y.
T'inquiète, j'ai ce qu'il faut.
Je te laisse attaquer.
Les chiffres du dopage selon l'Agence française de lutte contre le dopage. Le pourcentage de contrôle positif est entre 1 et 2% à l'échelle mondiale. En 2011, les sports avec le plus d'échantillons anormaux étaient le curling avec 3,4%, suivi de l'haltérophilie avec 3,16%, de la boxe avec 2,37%, du basketball avec 1,76% et du cyclisme avec 1,68%.
Alors, je tiens à couper tous nos auditeurs qui sont en train de se dire « le curling ». Mais en fait, c'est un pourcentage. Et le curling est un sport qui a relativement peu de pratiquants quand on ramène, par exemple, au cyclisme. Alors, vu que c'est un pourcentage par rapport à un nombre de contrôles, certes, du coup, ils sont en tête, si on peut en dire en tête d'une compétition, ils gagnent en termes de pourcentage, mais en nombre d'échantillons anormaux, vu qu'il y a moins de pratiquants, il y a moins de contrôles, en nombre, c'est le cyclisme qui a le plus d'échantillons anormaux. J'ai pas le chiffre exact, tu l'as toi ? Non ?
Non, mais le basketball aussi.
Du coup, on avait vu que le cyclisme était en tête. C'est le cycliste qui a le plus d'échantillons anormaux, mais en pourcentage, vu que ça se ramène en nombre de personnes contrôlées, c'est le curling qui est en tête. Et du coup, le curling, c'est une sorte de balai qu'on frotte devant le ballon.
Le ballon ? Non, c'est un...
Non,
un
plat
palais, c'est un
sur la glace palais. Là.
Oui, c'est ça. C'est c'est un sport de précision ou qui consiste à lancer un palais sur la glace et arriver sur une cible. Voilà.
Et pour la seconde partie de cette émission, nous sommes avec monsieur Michou, professeur de PS au collège Philippe de Comines. Bonjour monsieur.
Bonjour Joseph. Bonjour à tous.
Du coup Martin, je te laisse pour la première question.
Alors, la première question, déjà, quel est votre métier ?
Mon métier, Joseph vient de le dire, je suis professeur du PS. Donc, je suis chargé d'apporter des connaissances et des compétences aux élèves dans les activités sportives, physiques, mais aussi dans tout ce qui est relation avec les camarades, donc vie en société, etc. Voilà.
Alors, il y aura juste une question comme ça. Selon vous, le pourcentage le plus élevé, c'est dans quel sport ?
Le pourcentage de quoi ?
D'échantillons anormaux dans le sang du dopage.
D'accord. Donc, on est sur par rapport à cette question-là. J'en ai aucune idée, tout simplement. Parce qu'en fait, je pense que c'est développé. J'espère le moins possible, mais c'est développé. J'ai aucune idée de pourcentage de...
En pourcentage, c'est le curling. Mais parce que c'est là où il y a le moins de licenciés. Du coup, bah forcément, vu que ça se ramène à un pourcentage... voilà. Mais en nombre, par contre, de sportifs dopés, c'est le cyclisme.
Le cyclisme, d'accord. Et ça, c'est avéré ? C'est des chiffres que vous avez,
eu où ? L'Agence française de lutte contre le dopage.
D'accord, ok. Donc, le nombre de cas signalés par l'Agence française de lutte contre le dopage.
On n'a pas les chiffres exacts.
Mais... Okay. Si, on a 3,4%.
D'accord. C'est le curling, c'est le pourcentage du curling.
C'est 3,4% parmi tous les tests effectués ?
Oui.
D'accord.
C'est beaucoup.
C'est beaucoup.
Que pensez-vous des sportifs qui se sont dopés ?
Mais en fait, je pense que ils n'ont pas perçu, enfin, ils ont oublié avec la compétition ce pourquoi ils avaient choisi de faire un sport et de le développer à leur maximum. Je pense qu'ils ont perdu le contrôle à un moment donné et que pour avoir envie de tout gagner et pour en faire un métier pour certains ou améliorer des performances, des records, ben, je pense qu'ils ont, perdu toute éthique. Et oublier que le sport doit rester un sport fait avec son corps uniquement, avec son propre entraînement, et que des produits stupéfiants pour améliorer les performances n'avaient pas lieu d'être, parce qu'on perd toute égalité, évidemment, et sans parler des risques pour plus tard. Éventuellement, il y a beaucoup de... Je ne sais pas si vous avez fait des recherches dessus, mais on apprend beaucoup de sportifs, notamment dans le cyclisme, sont morts assez tôt pour diverses maladies. Est-ce que c'est lié au dopage ou est-ce que c'est pas lié au dopage, on peut pas savoir, mais le pourcentage est assez important également, je pense.
Quand comme ça on vous parle du dopage, à quel sportif vous vient à l'esprit qui vous a marqué?
C'est un peu loin pour vous, mais moi sur le cyclisme j'ai vu l'équipe Festina, c'est quelque chose qui m'a marqué. J'étais fan de sport et j'étais assez jeune et du coup ça m'a marqué en fait. Ça me faisait rêver au départ. L'équipe Festina était formidable. Et quand j'ai vu que tout ça, c'était tous dopés, ça m'a vraiment marqué. Ça, et puis aussi des athlètes de sprint américains. Je pense à Marion Jones, qui était une sprinteuse ultra connue et qui avait tout raflé et qui finalement était dopée. Il y a eu Ben Johnson aussi, un Canadien. C'est quelque chose qui m'a marqué, c'était un peu plus ancien. Surtout, en fait, dans les sports cyclisme et athlétisme. Dans les sports collectifs... y a sans doute du dopage aussi, mais la notion d'équipe, la notion de tactique fait que la performance purement physique est moins importante. Donc je pense que le dopage est un peu moins important, en tout cas à moins d'importance dans les sports collectifs.
Vas-y Martin, toi.
De toute façon, dans les sports collectifs, pour gagner une compétition, le seul moyen c'est soit de tricher ou d'être le meilleur.
Vas-y.
Pour conclure, dites-nous pour... Non. Est-ce que vous connaissez des mineurs qui se sont dopés ?
Joseph Coutal. Non, c'est pas vrai ça.
n'étais pas censé le dire.
Non. Des mineurs, j'ai pas souvenir, non. T'en connais toi ?
Non.
Non. je sais pas s'il y a du dopage, mais par exemple, j'ai l'image de la gymnastique. Chez féminines qui sont surentraînées, notamment en Chine par exemple. Alors je sais pas s'il y a du dopage ou pas, j'en sais
c'est
rien, mais
très jeune.
Elles sont tellement jeunes, et quand on voit des fois leur musculature, on se demande si tout est lié uniquement à l'entraînement ou s'il n'y a pas autre chose quand même. Mais bon, ce n'est qu'une supposition.
Vous venez de nous parler d'entraînement. Vous avez des conseils à nous donner pour nos entraînements personnels ?
Il y a plein de facteurs qui rentrent en compte pour progresser grâce à l'entraînement. Le premier conseil, c'est de trouver un équilibre entre l'entraînement, le temps de présence dans l'activité sportive, que ce soit en entraînement en club ou quand on fait des cours de PS. Donc là, c'est une grande concentration, c'est la préparation à l'échauffement. L'échauffement à votre âge on vous échauffe beaucoup, nous. Non pas que votre corps en ait encore vraiment, vraiment besoin. Le corps en a besoin, mais à votre âge, il y a peu de risques de blessures. Mais c'est pour vous donner les bonnes bases pour plus tard. Parce qu'en vieillissant, votre corps aura besoin d'être davantage préparé. Donc, toujours faire un bon échauffement. En général, l'échauffement en EPS, c'est un échauffement un peu cardio au départ. Après, un petit échauffement plus musculaire. Et puis souvent, on termine par un petit échauffement articulaire. Je ne sais pas si vous voyez de quoi je parle. Hein, donc ça, un bon échauffement. Après, dans l'activité pure, pour bien se préparer, pour bien s'entraîner, c'est de la concentration. Être appliqué par rapport aux consignes. Par exemple, quelqu'un qui va s'entraîner en basket et qui n'écoute pas son entraîneur, qui n'écoute pas les consignes, bah forcément, il va moins bien s'appliquer. Donc, de la concentration, de l'écoute, l'envie d'appliquer. Comme à l'école, poser des questions quand on ne comprend pas ce qu'il faut faire. Ensuite, donc ça, c'est pour le temps d'entraînement, mais il y a aussi, pour progresser l'entraînement, c'est l'état de votre corps, prendre soin de son corps. C'est éviter la fatigue, donc avoir un bon sommeil, un sommeil vraiment récupérateur qui vous donne suffisamment de temps pour que votre corps se remette des journées. L'alimentation et l'hydratation. Donc boire beaucoup d'eau, éviter tout ce qui est boisson énergisante, boisson gazeuse, boisson trop sucrée. L'alimentation équilibrée. L'équilibre, c'est l'important. Manger tout de façon raisonnable. Manger tout, éviter de manger trop sucré. Et tout ça fait que normalement, la performance sportive va être meilleure, votre corps va mieux s'en remettre. Et donc, toutes ces conditions réunies peuvent nous permettre d'éviter d'aller vers des produits autres, hein, des produits interdits.
Vous pratiquez un sport en club ?
J'ai pratiqué pendant longtemps le football. Là, maintenant, je pratique de façon plus en loisir, mais j'ai fait la compétition pendant 25 ans. J'ai pris beaucoup d'attention, comme j'avais envie de devenir un bon footballeur, d'être performant lors des matchs. Je faisais toujours attention à avoir un bon sommeil, à bien manger la veille, enfin bien manger la veille, même la semaine, et à bien m'hydrater. Voilà. J'ai toujours fait attention à ça, et sans avoir été à un niveau professionnel, hein, mais je me suis fait plaisir en compétition, et sans avoir de blessures, par exemple, musculaires graves. Voilà, je pense que j'ai fait ce que je pouvais faire de mieux dans cette pratique-là.
Comment faut-il s'alimenter en compétition ?
Il y a différentes écoles. La première chose, c'est qu'on a tendance à dire, même s'il y a des études qui commencent à montrer pas forcément que c'est totalement vrai, mais qu'en gros, manger des sucres lents en anticipant la veille, par exemple, d'une compétition, sont intéressants. Après, bon, voilà, ça reste à confirmer. Des sucres lents pour avoir des réserves d'énergie importantes. Pas trop manger peu avant le match, une petite collation, voilà, si c'est un match de foot par exemple, mais éviter de manger une grosse collation avant, enfin plus de, faut se laisser au moins un temps de 3 heures de digestion avec une petite collation, voilà, s'hydrater surtout beaucoup.
Juste, est-ce qu'il y a déjà eu des morts à cause des, par exemple, de l'hypoglycémie ou etc.
Je sais. Des malaises importants, oui. Certains, des morts, je ne sais pas. Par contre, des morts liées au dopage, ça, il y a des exemples. Hein. D'exemple, moi, je me rappelle, j'ai été un jour en vacances au Mont Ventoux. Le Mont Ventoux, c'est dans le sud de la France, et c'est un mont qui est très connu dans le cyclisme, parce que le Tour de France passe régulièrement. Et il y a une stèle d'un coureur, je ne sais plus...
Simpson.
Ouais, c'est ça. Simpson, c'est un Australien ou Américain, je ne sais pas exactement. Enfin bref, peu importe. Et qui donc est mort dans la montée. Et donc, il était avéré qu'il était dopé.
Tout à l'heure, tu avais posé la question sur l'alimentation dans le sport. En fait, c'est pas pareil en fonction des disciplines, vu qu'il y a aussi le judo où c'est assez particulier. Je ne suis pas un pro. Mais en fait, on est dans une compétition en fonction de notre poids. Puis, du coup, avant d'être pesé, on mange peu, mais plusieurs heures à l'avance. Et après, on remange, mais... quelques minutes avant la compétition.
En fait, tous les sports où le poids doit être respecté, les sportifs, à ce moment-là, sont très contraints. C'est-à-dire qu'il y a un moment donné où il y a une pesée officielle et si ils sont plus lourds que, que ce qu'ils espéraient, ils changent de catégorie. Et malheureusement, ils ne peuvent plus participer à ce qu'ils comptaient faire. Donc effectivement, ils sont obligés de gérer leur alimentation comme ça, en faisant le poids idéal au moment de la pesée, et après, ils peuvent éventuellement manger si le corps en a besoin, quoi. Donc c'est vrai que pour eux, c'est très contraignant. Il y a des sports, moi je peux rajouter quelque chose, il y a des sports par exemple, comme l'haltérophilie ou ce genre de choses, les sportifs ont besoin de prendre de la masse musculaire. Même on le voit par exemple dans le rugby où maintenant on voit que des sportifs hyper musclés, hyper costauds pour être résistants.
Ça dépend où,
oui. Mais sur du haut niveau, là il y a la Coupe du Monde de rugby en ce moment. Je sais pas si vous avez vu
les photos des
joueurs avant les matchs. On a l'impression qu'ils sont tous comme cette armoire. et donc pour prendre ça, la masse musculaire, souvent on parle de régime très protéiné. Voilà, mais je n'espère pas de dopage, mais ils mangent forcément des aliments plus protéinés que la normale pour les gens, quoi. Enfin, que pour voilà. C'est pas clair.
Et dans la première partie, nous on avait parlé de, par exemple, il y a le café et les choses comme ça. C'est à partir de quand, en fait, on peut estimer que c'est du dopage?
Je suis pas sûr que ce soit la caféine est un produit dopant.
Non. Mais à partir de quel produit excitant ça devient du dopage?
J'avais entendu parler que si on prenait trop de Ventoline, il y avait un moment où on ne pouvait plus...
En fait, il y a une liste officielle des produits dopants. Voilà. Donc, si un produit n'est pas dopant, on peut en prendre autant qu'on veut. Peut-être que ça peut nous solliciter, nous aider. Mais ce n'est pas considéré comme du dopage. J'ai envie de dire que c'est considéré comme une aide supplémentaire. Voilà. Mais par contre, sur tout ce qui est médicaments comme la Ventoline, les sportifs peuvent prendre certains médicaments sous ordonnance. Il y a des fois des choses qui sont acceptées sous ordonnance médicale, mais il faut que ça soit une certaine dose respectée. Voilà. Et la Ventoline rentre dans ce cas-là, quoi. Comme ceux qui ont par exemple des traitements allergiques qui prennent genre de l'ARIU, ce genre de choses là. Il faut vraiment respecter les doses prescrites, sinon ça peut être considéré comme du dopage.
Il y a aussi le dopage mécanique, vous connaissez un peu, dans le cyclisme surtout.
Mais il y a eu par exemple un cas d'un vélo sur lequel il avait été mis un petit moteur électrique en cachette, quoi.
Ouais. En plus, t'es un amateur, donc c'est un peu décevant.
Ouais, donc ça, ça peut exister. Après, par exemple, je sais qu'en Formule 1, il y a eu un moment donné où des constructeurs automobiles avaient utilisé des moyens pas très licites. Pour améliorer les performances. Et en fait, après, la fédération d'automobiles avait interdit ces pratiques.
Ils faisaient quoi?
Je sais plus, mais en gros, ils avaient rajouté une pièce, une pièce qui permettait d'être plus rapide, alors que cette pièce était normalement pas autorisée.
Ah, mais en Formule 1, on n'a pas le droit de faire tout ce qu'on veut pour être le plus rapide.
Non, il y a des règles très précises. Les voitures doivent répondre à un cahier des charges identique. Voilà. Après, évidemment,
les qualités... de poids.
Il y a le poids, enfin voilà, il y a tout, dans tout ce qui est aérodynamisme, ils doivent respecter un style particulier de voiture, enfin voilà. Je suis pas assez spécialiste non plus.
Moi j'avais une question. Bonjour, c'est Jules Régis. Est-ce que vous pensez que les boissons qui se disent énergisantes, comme tout ce qui est Monster, Powerade et tout, est-ce que ça sert vraiment ou... Enfin, est-ce que c'est utile?
Moi, je juge ça uniquement comme psychologique. C'est-à-dire un effet, tu te sens survitaminé. Utile, je ne suis pas sûr. Voilà. J'ai déjà joué avec des partenaires footballeurs qui prenaient ça avant le match. Et de la même manière que certains ont des petites manies d'avant-match aussi, en se disant, tiens, ça va me donner du peps, ça va me donner de la confiance et je vais me sentir dynamique. Voilà, sur le terrain.
Il y a certaines boissons comme ça, c'est plus pour la récup.
Oui,
ce qu'on a perdu pendant l'effort.
Il y a des
notamment Powerade.
Ouais, il y a des solutés de réhydratation. Après, c'est aussi très très commercial tout ça. La portée vraiment de ces produits-là, elle a vérifié quand même. Parce que les études souvent qui sont faites pour vérifier ça sont menées par les entreprises elles-mêmes, donc bon. Ça resterait à contrôler quand même.
Ils peuvent aussi s'auto proclamer.
Oui, c'est ça. Ouais.
Merci.
Merci, merci d'avoir été avec nous. Au revoir.
Merci, au revoir les garçons.
Au revoir Martin.
Au revoir Joseph.
Au revoir à vous aussi.